Commencer par un mot de prière, je vais vous mettre en sourdine, puis on commence avec un mot de prière, ensuite on va lire la parole. Puis, OK. Donc, on va prier pour commencer. Notre Dieu, notre Père, on est encore une fois réunis pour te remercier pour ce privilège qu'on a de pouvoir se réunir de cette façon les lundis soirs autour de ta parole, Seigneur. Puis, on te demande que ta parole puisse nous enseigner, ta parole puisse nous éclairer. Spécialement, Seigneur, dans les temps qu'on vit présentement, on sait qu'il y a beaucoup de confusion, mais Seigneur, nous, on veut te suivre, on veut avoir ta direction, on veut connaître, Seigneur, c'est toi qui connais les choses avant qu'elles arrivent et tu nous les as fait connaître dans ta parole. Mais on sait aussi, Seigneur, que les choses cachées sont à l'éternel, mais les choses révélées sont pour les fils de l'homme, pour nous, Seigneur. On te remercie pour cela. On te remercie pour tous ceux qui se sont connectés ce soir, puis puisses-tu encore une fois nous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on est dans les mystères, on est l'avant-dernier mystère du Nouveau Testament. Et c'est dans les deux derniers, c'est des mystères diaboliques, donc en rapport avec l'iniquité, en rapport avec Satan et sa rébellion, qui vont trouver à la fin le jugement. Ils vont rencontrer le jugement de Dieu. Sont destinés à ce jugement-là parce qu'il à cause de la rébellion, puis le Seigneur qui vient pour installer son royaume, eh bien, il va enlever tous les scandales de la terre, il va enlever tous les méchants, ceux qui sont dans la rébellion, qui ne se seront pas repentis. Et on sait que Satan, lui et les anges n'avaient pas de possibilité de salut. Le salut a été accompli pour les hommes qui ont tombé dans le péché, puis Dieu a voulu leur pourvoir un moyen de salut. C'est qu'on va commencer, on est ce soir dans le mystère de l'iniquité. On avait commencé la semaine passée, mais on va continuer, mais on va relire encore une fois notre passage dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Comme on avait dit, c'est un passage qui nous donne les événements c'est un passage clé pour donner les événements successifs à l'enlèvement ou après que l'enlèvement aura eu lieu. C'est Paul qui éclaire un peu les Thessaloniciens qui avaient été troublés à cause des gens qui avaient été venus disant avoir eu une lettre qui semblerait venir de Paul ou qui avaient des connaissances qui leur disaient qu'on était déjà dans le jour du Seigneur. On avait dit la semaine passée que le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement pour Israël, pour les amener à la repentance, mais aussi pour les nations qui seront restées, qu'on appelle les habitants de la terre, qui auront resté sur la terre après que l'Église va être enlevée. Donc, au verset 1 du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, on y lit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on avait fait un peu un schéma, un plan du chapitre. On avait dit que dans les versets 2, c'est une confusion qui vient dans les derniers temps, au lieu de certains qui disent qu'on va en venir à améliorer, christianiser le monde. C'est plutôt, il y aura une confusion, une apostasie au verset 3. Les gens qui vont se détourner, ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont détourner leur cœur de la vérité, ils vont aller vers des doctrines de démons. Dans le verset 3, 4 et verset 8, 12, on voit l'apparition de l'homme impie, qui est nommé ici le mystère de l'iniquité. C'est le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu. Puis après ça, on va voir ce soir ce qui le retient, versets 6 et 7. Celui qui, il y a ce qui le retient et celui qui le retient, le verset 6 et 7. Ensuite, on va voir dans les versets 10 et 12 les conséquences d'être séduit. Puis au verset 8, on voit la destruction du mystère de l'iniquité. Donc, c'est ça qu'on voit. Puis ces événements-là, eh bien, ils prennent place après l'enlèvement de l'Église. On voit ça en avançant ici. Donc, on était rendu au verset 3 à 4 et le verset 8 à 12. On parle maintenant de l'apparition de cet homme impie qui est appelé ici le mystère de l'iniquité. Si on parle du mystère de l'iniquité, eh bien, c'est vraiment le contraire du mystère de la piété qu'on avait vu. Parce que le mystère de la piété, comme on a vu, c'était la personnification de ce qui est parfait, de ce qui est pieux. C'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qu'on a vu ce mystère-là. C'est lui qui est le mystère de la piété. Et maintenant, le mystère de l'iniquité qu'on voit ici, ben c'est le contraire, c'est l'opposé du mystère de la piété. Mais tout en se disant être Dieu ou être de Dieu, eh bien, mais c'est la puissance du malin qui est derrière ce mystère-là de l'iniquité. Dans les versets 3 à 4, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On va aller maintenant au verset 8 à 12 et dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soit condamné. Donc, c'est la fin de ça, c'est la condamnation, le jugement de Dieu qui vient sur eux. C'est ça qui va être dans la tribulation, puis la dernière partie qu'on appelle la grande tribulation. Donc, c'est le mystère de l'iniquité, c'est la personnification du mal dans un homme. C'est un homme qui va paraître, c'est l'Antéchrist. C'est celui qui s'oppose, c'est l'adversaire. C'est ça que ça veut dire. Celui qui s'oppose, c'est l'adversaire, c'est l'opposant de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'Antéchrist, c'est qu'il vient contre le Christ, se proclamant lui-même être Dieu. Mais on voit que ça, c'est vraiment le summum de la rébellion de Satan là, ici sur la terre. Dans Ésaïe 14, 13 à 14, en parlant de Satan, il disait, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est quelque chose de quand un être qui a été créé pense vouloir surpasser celui qui l'a créé. Mais c'est ça dans la rébellion de Satan. Il voulait être comme le Très-Haut. Il voulait s'élever au-dessus du Très-Haut. Puis tout ça, c'est de la rébellion. Puis on la voit, cette rébellion-là. Hein. On ne veut pas avoir personne pour régner sur nous autres. On veut être notre propre chef, de faire nos propres décisions. On ne veut pas obéir. Dans notre nature, on est des gens rebelles. Parce que ça, c'est vraiment la nature de péché, à cause que Satan, c'est l'orgueil, c'est vouloir s'élever au-dessus de Dieu. Donc, on vit dans une société maintenant de plus en plus, moi je dis, la société dans laquelle on vit est devenue ou était amenée à être réfractaire à l'Évangile, réfractaire à Dieu. On ne veut pas entendre parler de Dieu. On nie l'existence de Dieu dans notre société. On se moque, il n'y a aucune crainte de Dieu. Ça avait été décrit dans 2 Timothée 3, dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, arrogants, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irreligieux. Les gens ne veulent plus on se moque même de Dieu. Ouvertement, on se moque de Dieu. Mais si on ne se tourne pas vers Dieu pour nos solutions, parce qu'on a besoin de solutions, on est des êtres finis, on est limité, on vient dans des situations où on a besoin de solutions. Puis, surtout au point de vue spirituel, on a besoin de solutions, on a besoin de salut. Mais si on ne se tourne pas vers Dieu pour notre solution, bien, il y a juste une autre alternative, c'est de se tourner vers un homme. Puis c'est ça, c'est cet homme-là qui, les gens vont se tourner vers cet homme-là. On parle de 666, le nombre, la bête, c'est 666. Donc les gens, au lieu de se tourner vers Dieu, ils vont mettre leur confiance dans un homme. C'est drôle de dire parce que quand on leur parle de la parole de Dieu, ils nous disent, bah, ça a été écrit par des hommes. Mais ils vont se confier dans un homme qui va les diriger, qui va les détourner, qui va les entraîner dans cette rébellion-là. Donc cet homme-là, il prend la place de Dieu pour être adoré. Il veut avoir l'adoration. Puis c'est ça qu'il va faire. Même il va s'asseoir dans le temple de Dieu, puis il va se proclamer lui-même Dieu. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu qui sera reconstruit. C'est pour ça qu'on croit que dans la tribulation, il va avoir le temple va être reconstruit. Puis cet homme de péché-là, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, il va se proclamer lui-même être Dieu. Donc il nous dit que dans le verset 7, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc cette pensée-là, cette façon de voir les choses, cette façon d'agir, cette rébellion-là, elle agit déjà dans le temps qu'on est. On voit que tout se prépare mais l'homme n'est pas encore apparu, cette personnification-là n'est pas encore apparue, mais la pensée est de cette façon-là. On voit beaucoup, quand on regarde maintenant les enjeux politiques, ce que les gens veulent, c'est quoi? Ben, ils veulent l'avortement, ils veulent l'homosexualité, ils veulent l'euthanasie. Ils veulent toutes ces choses-là qui sont contraires à Dieu. Puis même c'est rendu un point que si un candidat n'est pas pour ces choses-là, mais il y a aucune espérance d'être élu parce que les gens n'éliront pas quelqu'un qui va avoir des valeurs selon la parole de Dieu. Le bien est appelé mal, puis le mal est appelé bien. Donc ce mystère-là de l'iniquité, il agit déjà dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on croit vraiment qu'on est près de l'enlèvement, on est près du temps où le Seigneur Jésus va venir prendre les siens pour ensuite verser sa colère sur la terre, sur les habitants de la terre. Mais ce qui fait en sorte, puis on ressent vraiment qu'on est rendu à une extrémité, comme si ça n'avait jamais été atteint. Jusqu'à ce point-là dans les âges passés. Mais maintenant, si le Seigneur il n'a pas encore jugé, qu'il n'a pas encore enlevé son Église pour juger la terre, bien c'est parce qu'il est patient et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On sait que ce jugement-là, ça va être un grand jugement qui va venir sur la terre, sur les habitants de la terre et même sur le peuple d'Israël qui vont être très, très persécutés. Mais donc ce mystère-là, il agit déjà, mais l'apparition de l'impie est retenue. Mais quand la restriction va être enlevée, ça va aller très vite. On parle de 7 ans, c'est vraiment littéralement 7 années. Là. On parle de 1260 jours. On parle de c'est vraiment 7 années, là, la moitié de la tribulation, 1260. Mais c'est que les choses vont se précipiter. Quand l'Église va être enlevée, là, ça va aller très vite. Puis ça, c'est le fils de la perdition. Puis lui, il est destiné à la perdition éternelle dans les temps de feu. Mais on en vient à une religion qui va défier Dieu avec, puis il nous parle de des doctrines de démons. Puis la puissance de Satan va être manifestée. Puis c'est drôle de voir que des gens vont être prêts à croire à des prodiges. C'est sûr que des prodiges, ça émerveille. Des choses qui, des miracles, non? Puis il y a des gens qui cherchent beaucoup les miracles. Il faut faire attention parce que ici, cet homme de péché-là, il va avoir des miracles, mais il va avoir des prodiges, mais ça va être des signes qu'il va montrer pour démontrer. Puis ça, c'est vraiment en copiant ce que le Seigneur Jésus a fait. On sait que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, bien, sa présence a été marquée par des signes pour démontrer qu'il venait de Dieu. Mais quand Nicodème est venu au Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, Seigneur, il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Puis on sait que le Seigneur Jésus a fait des miracles comme les aveugles, il a donné la vue à des aveugles, il a ressuscité des morts. Puis c'était les signes qui démontraient, puis Nicodème avait bien compris que ces signes-là venaient de Dieu. Mais ici, c'est des prodiges mensongers. Ce ne sont pas de la réalité, ce ne sont pas des choses vraies, mais les gens vont être éblouis par cet homme-là parce qu'il va faire des signes. Puis les gens vont être prêts à croire à ces signes-là. Le Seigneur Jésus, il a fait des signes pour montrer qu'il était le Messie, mais aussi il a accompli l'Écriture. Puis c'est vraiment en sondant les Écritures qu'on pouvait voir que le Seigneur Jésus était celui qui devait venir. Il avait été annoncé. Il est venu selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc le Seigneur Jésus, on pouvait toujours le retrouver dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il accomplissait. Puis les miracles n'étaient pas juste des miracles pour démontrer, mais tous ces miracles du Seigneur Jésus avaient un but, c'était de démontrer que, comme Jean nous l'a dit dans son évangile, ça fait que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on a la vie en son nom. Mais cet homme de péché-là, ici, lui, il prend le même scénario, il va imiter, Satan est un imitateur, il va imiter, il va faire des prodiges mensongers. Puis les gens vont être éblouis par ça, puis ils vont croire. Au lieu de croire à la parole de Dieu, ils vont croire à cet homme-là ici, là. Mais ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, dans le verset 9, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Quand le Seigneur Jésus revient la première fois, il n'y aura pas besoin de faire des signes ou des prodiges. Mais quand on va être transformé en un instant, d'un clin d'œil, on va savoir que c'est le Seigneur Jésus qui est venu nous chercher. Puis quand il revient sur la terre pour juger, eh bien, tout œil le verra. Puis comme l'éclair paraît de l'Orient à l'Occident, eh bien, tout le monde va reconnaître que c'est vraiment le Seigneur Jésus. La première fois, il était venu en humilité, mais la deuxième fois, il revient en puissance. Puis il n'y aura pas aucun doute, on sait, dans l'Apocalypse, les rois, les puissants de la terre, ils disent aux montagnes puis aux rochers de tomber sur eux parce que la colère de l'agneau est venue et qui peut subsister. Donc, ils savent c'est qui le Seigneur Jésus. Il n'y a pas besoin de signes ou de prodiges. Donc, cet homme-là, il vient avec des signes et des prodiges mensongers. Mais, savez, c'est quoi qui fait en sorte que ça séduit les gens? Pourquoi que les gens vont être séduits par ça? C'est quoi qui est la pierre d'achoppement de l'Évangile? Pourquoi les gens ne veulent pas de l'Évangile? C'est parce qu'il faut se repentir. C'est ça, la pierre d'achoppement de l'Évangile, c'est la repentance. Reconnaître son péché devant Dieu. Dans notre orgueil, on ne veut pas reconnaître notre péché. Mais quand on se tourne vers lui et qu'on s'humilie, c'est pour ça que, vu que le péché, c'était l'orgueil, le péché originel, c'est l'orgueil, ben, l'antidote, c'est l'humilité. De s'humilier devant Dieu, de reconnaître notre péché et de reconnaître qu'on a besoin de lui pour être sauvé, puis c'est sa grâce, c'est une faveur imméritée qui nous sauve. Donc, c'est pour ça que bien des religions, ils peuvent avoir une certaine popularité parce qu'ils ne demandent pas à leurs adeptes de se repentir. On va parler des autres qui sont mauvais, puis mais nous, on peut être bon en suivant cette religion-là. Ça, c'est la séduction de l'iniquité. Puis en plus, si on n'a pas de repentance, si on n'a pas de conversion, on peut continuer de vivre comme ça nous plaît. Puis c'est ça qui plaît aux gens. Ils sont prêts à suivre une religion qui ne changera pas leur vie, mais ils ne sont pas prêts à se remettre toute leur vie en question. C'est ça le problème ici, là. Mais c'est une déception totale qui va mener à l'étang de feu. Ces gens-là qui vont suivre cette déception-là, ils vont se trouver dans l'étang de feu. Mais ici, ça va être la déification d'un homme. C'est un homme qui va apparaître et qui va se dire être Dieu ici, là. C'est le mystère de l'iniquité, c'est une trinité, c'est la trinité diabolique. L'Apocalypse nous parle de deux bêtes. Dans l'Apocalypse, au chapitre 13, on a la bête qui monte de la terre. Ça, c'est le pouvoir politique. C'est Rome qui va être, l'Empire de Rome qui va être reconstitué avec son leader qui va prendre la place. Ensuite, on a la bête qui monte de la terre. Quand on parle de la mer, eh bien, la mer représente les nations. Donc, cet homme-là, ça va être un homme des nations. Mais celui qui monte, la bête qui monte de la terre, elle, quand on parle de la terre, on parle d'Israël. Puis ça, c'est une bête religieuse, cette bête-là. C'est le faux prophète, c'est l'Antéchrist. Mais aussi, avec ces deux bêtes-là qui vont avoir le pouvoir politique et le pouvoir religieux, eh bien, ils vont être avec la puissance de Satan. C'est la puissance de Satan qui va les élever à ce rang-là. Donc, on a Satan avec la bête qui monte de la mer, le chef politique, la bête qui monte de la terre, la religion ou le faux prophète. Puis c'est la puissance de Satan qui va énergiser ces gens-là. Donc, on sait que la bête politique, elle va venir des nations avec un grand pouvoir. Puis ça, c'est l'Empire de Rome qui est reconstitué. La parole de Dieu nous dit, on sait que dans la statue que Daniel avait vue, il y avait la statue de Daniel que Nebuchadnezzar avait vue, Daniel a expliqué. Ça nous parle des quatre empires qui ont dans le temps des nations. Le temps des nations, c'est quand le royaume a été enlevé à Israël, puis ils ont été emmenés en captivité. Le pouvoir a été donné à des nations qui sont des nations qui étaient puissantes, des empires mondiaux qui ont pris place, puis Israël ont été assujettis. On appelle ça le temps des nations dans la parole de Dieu. Donc, il va avoir un grand pouvoir, ce chef politique-là, il va venir des nations avec un grand pouvoir. C'est l'Empire de Rome qui va être reconstitué. C'est ce que la statue de Daniel, c'est ça qu'elle nous dit, c'est que cet Empire de Rome-là a jamais été conquis comme les trois autres premiers empires, mais il s'est désintégré de l'intérieur, puis il s'est divisé dans les pays d'Europe. Fait qu'aujourd'hui, la communauté européenne qui se regroupe, eh bien, ça, c'est l'Empire de Rome, ce qui est reconstitué. Daniel a parlé des pieds de la statue avec les 10 orteils, une confédération de 10 rois. Puis la pierre qui vient sans l'aide d'aucune main, c'est le Seigneur Jésus qui vient frapper les statues dans les pieds. Puis, mais toute la statue, la tête, le corps, les bras, le torse, les jambes, va tout s'écrouler, puis elle va être emportée par le vent, comme la balle par le vent. Donc, le Seigneur va enlever l'autorité. C'est là la fin, on appelle ça la fin du temps des nations. Puis là, le royaume va revenir avec le fils de David qui va prendre le royaume. C'est le Seigneur Jésus, cette pierre-là qui va frapper la statue dans les pieds. Mais c'est faux, le chef politique, il va venir des nations avec un grand pouvoir parce que c'est la démocratie de l'Ouest, là. C'est ça qui. Puis on voit déjà présentement, il y a un conflit entre l'Est et l'Ouest qui a toujours existé. Il y a eu une division toujours entre l'Est et l'Ouest. Mais là, maintenant, ça s'en vient, ça culmine au point de venir s'affronter, là. Mais le faux prophète, lui, ça va être un juif à Jérusalem, parce qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, il va se proclamer lui-même être Dieu. Puis il va faire un traité de paix avec la bête politique. Parce que c'est sûr, il va se dire être le Messie. Donc, le Messie est supposé d'apporter la paix à Israël. le règne de paix. Et lui va dire apporter le règne de paix à Jérusalem. Un traité de paix entre les deux pour 7 ans. Ça va être au début de la tribulation. Mais on sait qu'après la tribulation de 7 ans est divisée en deux périodes de 3 ans et demi. La première, cet homme-là il va résoudre les problèmes. Il va amener un semblant de paix sur la terre. Puis on sait que le problème pour la paix sur la terre, c'est le problème dans le Moyen-Orient. On voit que c'est tout le monde regarde le Moyen-Orient, puis c'est là qu'il y a le conflit, qui ça vient amener un conflit entre l'Est et l'Ouest aussi. Donc, mais après 3 ans et demi, il va attaquer Jérusalem. La bête politique va venir attaquer Jérusalem après avoir fait un traité de paix, ils vont briser le traité de paix. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 5, 3, il nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, parce que là, il va sembler avoir établi la paix, la prospérité, comme c'est le Christ qui va faire ça dans le millénium. Mais là, c'est une imitation. Puis il dit, quand les hommes diront, c'est les hommes ici, quand c'est important de comprendre que c'est les hommes qui disent ça, là, c'est pas Dieu. Quand les hommes diront paix et sûreté, finalement, ils ont réussi à résoudre les problèmes de l'humanité. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est que les douleurs, on attend, puis on attend, puis on attend, la femme attend, puis à un moment donné, quand les douleurs commencent, ben, là, c'est une série d'événements qui va faire en sorte, à travers toutes ces douleurs-là, qu'ils vont enfanter un enfant. Donc, mais quand ils vont dire paix et sûreté, quand ils vont penser que finalement ils ont réussi à résoudre les problèmes, c'est une ruine soudaine qui va les surprendre comme les douleurs d'une femme enceinte, puis ils n'échapperont point. Il n'y a personne qui va échapper, mais tous ceux qui ont resté dans cette rébellion-là, ils vont passer à travers le jugement de Dieu. Ça, c'est le commencement de ce qui est appelé la grande tribulation, le jugement de Dieu qui commence au milieu de la tribulation. Maintenant, on arrive à la question qui avait été posée la semaine passée, puis qui nous intéresse quand il dit au verset 6-7, ce qui le retient, cet impie-là ne fera pas apparition jusqu'à ce que ce qui le retient va disparaître ou celui qui le retient. Dans les versets 6 et 7, il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient. Donc il y a quelque chose qui est une force de rétention de cet impie-là qui ne peut pas se présenter afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, on voit ici qu'il nous parle de ce qui et il nous parle de celui qui. Puis, pour répondre à la question de la semaine passée qu'on avait eue, eh bien, ce qui et celui qui, c'est l'Église. Ce qui, c'est l'Église, mais celui qui, c'est l'Esprit de Dieu. On sait que l'Église existe à cause du baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a baptisé tous ces gens-là pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Donc, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ et maintenant habitée aussi. L'Église est le temple de Dieu. Dieu habite par son Esprit dans son Église et l'Église est habitée. L'Esprit habite dans chaque croyant, mais aussi dans l'Église. Il est avec l'Église, il conduit l'Église. L'Église avance sous la direction de l'Esprit, puis on le voit clairement dans le livre des Actes. On voit beaucoup l'Esprit qui dirige dans le livre des Actes, puis l'Esprit qui donne la puissance, qui donne les paroles pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On voit que c'était avec une grande puissance parce que le Seigneur Jésus avait dit, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, cette Église-là, elle est dans le monde. Puis, c'est pour ça que le jugement n'est pas encore venu, parce qu'on a dit que Dieu, s'il retarde son jugement, c'est qu'il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Pendant que c'est le temps de sa patience, c'est certain que son Église continue par l'Esprit de témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés par la foi en lui. Puis le Seigneur, c'est une puissance, cette Église-là. Pas l'Église apostate. On voit que l'Église apostate va demeurer dans le monde quand le Seigneur va enlever son Église. Mais cette Église-là, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, cette église-là, l'église apostate, elle va usurper l'autorité, mais la vraie église, sous la direction de l'Esprit, elle va continuer de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puis, c'est ça qu'on voit qu'il y a des gens encore qui sont sauvés. Il semble que c'est peut-être plus individuellement, un à la fois, mais il y en a peut-être un peu moins, mais il y a encore des gens qui se convertissent. C'est toujours une grande joie de voir des nouveaux convertis. J'ai eu le privilège, pas la fin de semaine d'avant, de rencontrer un jeune homme qui, ça fait un an, un peu plus qu'un an, qui est sauvé. Puis c'est vraiment, ça nous donne une grande joie. Ça nous montre que le Seigneur est encore capable de sauver des gens, puis de les transformer. Parce qu'il y a bien des gens qui disent être sauvés, mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de puissance de vie, il n'y a pas de sanctification. Mais il y a encore des gens qui comme Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Donc, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une puissance dans le monde. Pourquoi? Pas à cause de Dieu, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est avec cette Église-là. Donc, ce qui le retient est celui qui le retient. Mais ce n'est pas l'Église apostate, elle va pas retenir, elle va rester sur la terre. Puis, quand la vraie Église va être enlevée, bien, il n'y aura plus de puissance de retenue. L'ennemi va prendre, parce que cette Église-là, elle est de ligue avec l'Antéchrist, puis avec la bête politique. Donc, c'est l'Église apostate, mais l'autorité, mais la vraie Église est sous la direction de l'Esprit. Puis quand elle va être enlevée, l'Esprit va être enlevé avec elle. Puis elle ne retiendra plus. Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, dans Matthieu 5, 13. Donc le sel a un effet de préservation. Puis il empêche la corruption. C'est ça qui est dit. Mais aussi, dans Matthieu 5, 14, le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. De ses disciples ici, vous êtes la lumière du monde. Mais le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Puis dans Jean 9, 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais après que le Seigneur Jésus était parti, bien, nous, il dit que nous maintenant, on est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Pourquoi? Parce qu'on est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est la tête dans le ciel. Nous autres, on est les membres sur la terre. Mais quand on est en parfaite harmonie avec notre tête dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est la lumière du monde. C'est le Seigneur Jésus qui brille dans ce monde pour sauver les perdus. Donc, l'Église, là, est comme une armée envoyée dans le monde pour arracher des tisons du feu. C'est ça le but de l'Église. Puis, c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'il y a des Églises qui perdent la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, ce n'est pas de réformer le monde. On ne pourra pas réformer le monde. Puis Dieu ne réforme pas non plus le monde. Le monde est condamné. Mais il veut arracher des individus à cette condamnation-là. Il veut arracher des individus à cette rébellion-là de Satan pour en faire ses disciples, pour en faire ses enfants, les sauver par sa grâce. Donc, ça, c'est. Puis le Seigneur, quand il a envoyé l'Église avec la grande commission, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28, 20. Donc, c'est le Seigneur, la présence du Seigneur dans cette Église-là, eh bien, c'est elle la puissance. Par son esprit, dans l'Église, c'est une puissance de retenue. Puis, quand cette puissance-là de retenue va être partie, imaginez-vous comment ça va aller vite, là, parce qu'il y a juste Satan. Satan sait qu'il n'a plus de temps, puis il va agir avec empressement. Donc, vous savez, quand on a quelque chose qui a été retenu, puis jusqu'à l'extrême, quand ce qu'il retient est enlevé, ben c'est une poussée maintenant qui s'en va, puis c'est ça que ça va être, là. Les événements vont être propulsés sur la terre. Il va se passer tellement de choses, puis que les choses vont avancer tellement vite, parce que tout ce que la parole de Dieu a dit, par rapport à la tribulation, elle va se produire. Tout va se produire. Puis c'est pour ça qu'on voit les choses se mettre en place. Mais imaginez-vous quand tout va être propulsé vers l'avant, parce que Satan il va agir rapidement parce qu'il sait qu'il a peu de temps. puis il va être, ça va aller vite. Mais maintenant, on en vient aux conséquences d'être séduit. Dans les versets 10 à 12, il dit ici, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est vraiment le Seigneur, il va pousser les gens, là. Il n'y aura personne sur la clôture, ceux qui, soit qu'on se repente de nos péchés pour suivre le Seigneur, ou qu'on reste dans la rébellion, eh bien, il n'y aura pas de gens entre deux. Il va avoir, les gens vont s'en aller. Cette puissance-là d'égarement que le Seigneur va envoyer va les pousser vers ce mystère de l'iniquité-là pour qu'ils soient condamnés. Donc, quand on refuse la vérité, qu'est-ce qu'on se condamne au mensonge? Si on refuse la vérité, quand on refuse la lumière, on se condamne aux ténèbres. Donc, puis, y a quelque chose ici qui est remarquable, là. Il dit, ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance également pour qu'ils croient au mensonge. Donc, il nous parle d'un mensonge ici, là. Il y a un mensonge qui est proclamé, puis les gens vont y croire à ce mensonge-là. Je ne sais pas si vous êtes arrêté à penser, qu'est-ce que ça peut être ce mensonge-là que les gens vont recevoir puis qu'ils vont croire? Ben, il y a un mensonge maintenant qui est cru dans le monde. C'est sûr que nous qui sommes sauvés par la grâce, on ne croit pas à ce mensonge-là. Mais il y a beaucoup des habitants de la terre, ceux qui résistent à l'Évangile, puis qu'est-ce qui leur donne cette assurance-là dans leur rejet de l'Évangile? Ben, c'est ce mensonge-là. Puis, on pense à la théorie de Darwin quant à l'origine de l'humanité et de l'univers. Vous savez, c'est des scientifiques, des gens qui proclament ça comme si c'était une réalité. On proclame la théorie de l'évolution comme si c'était des faits prouvés, mais le terme même dit une théorie, c'est la théorie de l'évolution. Donc, une théorie, c'est pas quelque chose de prouvé scientifiquement, mais on dit que la science, on parle comme si la science a prouvé que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de cette création-là. Ce n'est pas lui qui a amené toutes choses. Puis, si il n'y a pas de Dieu, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Puis, c'est quoi que ça fait? Ça fait que les gens vivent dans l'iniquité. Puis, cette théorie-là a pénétré toutes les sphères de la société comme un fait. L'homme, vous savez, l'homme est crédule, hein? L'homme est crédule, mais il est aussi incrédule. Quant à ça vient aux choses de Dieu, ben là, on n'a pas de preuve de ça, puis on, personne jamais qui ils vont nous dire des choses comme il y a jamais personne qui est allé au ciel, il n'y a jamais personne qui a vu Dieu, il n'y a jamais personne. Le livre qu'on a entre les mains, la Bible, ça a été écrit par des hommes, c'est des hommes qui ont écrit ça, sans vérifier. Parce que s'ils vérifieraient, s'ils liraient la parole de Dieu pour vérifier, ils verraient que c'est pas un livre, ça se peut pas que c'est un homme, des hommes qui ont écrit ça, parce qu'il y a une harmonie dans ce livre-là. C'est un livre qui a un auteur, même s'il y en avait des auteurs humains, plusieurs auteurs humains pendant deux millénaires, eh bien, ce livre-là, on voit qu'il est un. Parce qu'il y a des thèmes qui se suivent dans sa parole-là, d'un bout à l'autre de la parole. Mais pourquoi que les gens. Ce mensonge-là, là, il a tout pénétré, toutes les sphères de la société comme un fait. De la garderie, puis c'est vrai, nos enfants dans les garderies commencent déjà à l'école, au secondaire, dans les universités. Vous voyez, cette théorie-là est enseignée comme un fait au point que c'est vraiment un chrétien qui va à l'université, là, il faut qu'il soit ferré. Il faut qu'il sache vraiment qu'est-ce qu'il croit. Il faut qu'il soit vraiment fondé solidement sur la parole de Dieu pour résister à cette puissance-là. Puis moi, je me suis fait dire par des gens qui ont été à l'université que quand tu arrives à l'université, c'est vraiment poussé sur les gens qu'il faut croire à cette théorie-là de l'évolution. Donc, c'est une puissance d'égarement, ça. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, ben on peut vivre. Puis c'est comme pour ça qu'on se demande pourquoi que les gens agissent comme des animaux. Ben, c'est parce qu'on leur dit qu'ils sont des animaux. Puis ils finissent par agir comme des animaux. On pense aux tueries, on pense à l'immoralité, on vit comme si on n'aurait jamais à rendre compte de nos actions. Puis même dans le système judiciaire, le mal est toujours excusé, c'est à cause des maladies, c'est à cause de la psychiatrie. On essaie de régler par la psychiatrie, par la psychologie. Mais c'est vraiment, on excuse tout dérèglement, là. Puis, mais de l'autre côté, comme j'ai dit, l'homme est crédule, l'homme embarque dans ce mensonge-là. Mais l'homme est aussi incrédule. Surtout qu'on parle de la parole de Dieu, puis en essayant il essaie d'y trouver des failles tout de suite. Puis si, même s'ils n'en trouvent pas, ils disent qu'il y a des contradictions là-dedans. Puis ils ont toutes sortes d'excuses pour rejeter la parole que Dieu nous a donnée, la parole qui nous dit, elle, d'où vient notre existence, d'où on vient, puis qui nous a mis sur la terre, puis pourquoi. Puis ça c'est vraiment la puissance d'égarement. Puis combien de gens aujourd'hui sont séduits par cette puissance d'égarement-là, là? Vous savez, sans trouver de faille dans la parole de Dieu, on la rejette comme si elle avait des failles. L'évolution, on y croit même s'il y a beaucoup de failles. On la reçoit. Puis c'est ça, ce qu'on se dit. Pourquoi que les gens sont prêts à croire quelque chose de même? Ça fait vraiment pas de sens de dire que tout est arrivé par accident. Il y a des choses bien moins compliquées qu'on voit autour de nous, comme si je disais à quelqu'un que j'avais embarqué dans mon auto, puis il disait qu'il croyait pas en Dieu, il croyait à l'évolution. Ben, moi, j'ai dit, regarde, on est dans une auto, là. Puis, si je te disais que cette auto-là, un jour, là, il y a eu une grande tempête, il y avait une cour à scrap, puis il y a eu un grand vent, puis les morceaux d'auto sont mis à voler dans les airs, puis se frapper ensemble, puis tout d'un coup, ils se sont agencés pour faire l'auto dans laquelle on est assis. Il dit, tu croirais-tu ça? Ben non, c'est impossible. Mais pourtant, tous les morceaux sont là. Il y a tous les morceaux pour faire une auto. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les agencer. Mais l'univers dans lequel on vit, il n'y avait rien. Puis, il y a eu des choses. Puis, ils sont toutes bien agencées. Alors, on voit que c'est un ordre qui est. Donc, même une montre, de regarder une montre, puis dire que c'est arrivé par hasard, que c'est une montre assez développée comme ça, avec la poussière. Les gens ne croiraient pas à ça, parce que ça ne fait pas de sens. Mais on est prêt à croire que tout l'univers, combien plus complexe puis ordonné, c'est arrivé par hasard. Donc, mais c'est quoi qui fait en sorte que les gens préfèrent croire à ces choses-là? Ben, c'est l'iniquité. C'est ça qui est le but. C'est l'iniquité, c'est que si je crois à cela, ben, j'ai aucun compte à rendre. J'aurais pas à rendre compte à Dieu. Mais est-ce qu'on a besoin de croire en Dieu pour qu'il existe? Non. Des fois, Dieu existe sans que nous, on ait à y croire. Moi, je dis des fois aux gens, je dis, si tu ne crois pas en Dieu, un jour, tu vas y croire. Comme quelqu'un que si tu te tiens près de la voie ferrée, un jour, tu vas voir que des trains, ça existe. Puis c'est la même chose. Le monde s'en va vers un jugement. Puis si tu continues dans ce monde-là, tu vas voir un jour, tu vas rencontrer le jugement de Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Puis la parole de Dieu nous dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu et le Père. Donc, il n'y a personne qui va avoir des doutes par rapport à l'existence de Dieu, parce que chacun va le rencontrer. Merci Seigneur que nous, on peut le rencontrer comme notre Sauveur. Mais ceux qui ne veulent pas le rencontrer comme leur Sauveur, bien, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est ça qui va arriver aussi. On sait que c'est pour Israël, mais aussi pour nous autres. Mais sans aucune preuve, ils croient à cette théorie-là, puis ils rejettent la Bible quand la Bible, il y a beaucoup de preuves à l'appui pour montrer que la Bible est la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont poussés vers le jugement dans l'endurcissement. Ceux qui n'ont pas aimé l'amour de la vérité, n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, bien, ils vont aller dans le jugement. Ça, c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Mais on voit que Pharaon, en Égypte, il s'est endurci contre Dieu. Puis, il s'est endurci pendant un temps. Il n'a pas voulu, il a résisté aux avertissements que Dieu lui a donnés. Puis, un jour, on est venu au point que Dieu a dit, OK, tu veux t'endurcir, maintenant, moi, je vais t'endurcir. Pourquoi que Dieu a endurci Pharaon? Pour qu'ils finissent dans le jugement. Imaginez-vous, c'est quelque chose de quand Pharaon, avec son armée, sont entrés dans la mer qui avait été ouverte par la puissance de Dieu. Je sais pas qu'est-ce que vous penseriez de ça, vous, que vous arrivez devant une mer, puis la mer s'ouvre par la puissance de Dieu, puis il y a un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche. Les Israélites passent à sec dans la mer, mais il y a jamais, je sais pas, il y a aucune crainte de Dieu, là. Parce qu'il rentre là-dedans, le Dieu qui a ouvert la mer, ben c'est certain qu'il peut la fermer. C'est peut-être moins dur de la fermer que de l'avoir ouvert, de la façon qu'il l'avait ouvert. Mais pourquoi que ce Pharaon et son armée sont entrés dans la mer? Vraiment, on voit l'endurcissement. Ils sont en allés directement dans leur jugement, puis la mer les a engloutis. Là, ils ont fini dans ce jugement-là, puis c'était par la puissance de Dieu. Mais de la même façon, les gens voient dans l'Apocalypse que toutes les choses qui vont arriver, qui démontrent la puissance de Dieu, les gens vont blasphémer Dieu. Au lieu de se repentir, ils vont blasphémer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont endurcis. Ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Puis là, ils vont s'en aller de plaies avec toute la puissance du mal. Ils vont s'en aller vers le jugement. Puis ils vont rencontrer le jugement pour être détruit par Dieu. C'est vraiment triste de penser ça. Hein? Les gens qu'on côtoie, là, à qui on parle du Seigneur, bien, on ne veut pas qu'ils se ramassent là. Puis aujourd'hui, c'est un jour de salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Maintenant, si les gens veulent reconnaître leur péché, puis c'est pour ça que ça nous pousse, nous autres, l'amour de Christ nous pousse à leur parler, parce que si on réalise comment ça va être terrible pour eux de passer dans ce jugement-là. Mais ça s'en va vers la destruction. Puis on voit que les gens n'ont aucune crainte. Même aujourd'hui, quand on ne veut plus vivre, on se fait piquer et on s'en va. Et sans réaliser qu'après la mort vient le jugement. Ils s'en vont, ils se précipitent dans le jugement, même avant leur temps. C'est vraiment quelque chose. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. C'est l'endurcissement total. C'est vraiment triste de voir ça. Mais parce que la destruction du mystère de l'iniquité, ben, ça va être par le Seigneur Jésus, comme il dit dans le verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc, la fin de ce mystère-là, là, c'est la destruction. Mais la destruction, il y en a qui disent, ah, le monde va se détruire par lui-même. Non, non, le monde ne se détruira pas par lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui va venir détruire les gens qui sont sur la terre. Il va les enlever de la terre parce qu'il va garder cette terre-là, il va la prendre pour son royaume. On sait qu'un jour, il va avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre, mais cette terre-là lui appartient. Puis il va enlever tous les scandales d'ici pour établir son règne. Donc, ce n'est pas le monde qui va se détruire par lui-même, c'est le Seigneur Jésus qui va venir en jugement sur le monde. Puis ça, c'est notre espérance. Parce que la condamnation du mal, d'autre, on est dans ce monde-là, on est à contre-courant, on est toujours parce qu'on veut être obéissant au Seigneur, parce qu'on veut se liguer avec le Seigneur, on rencontre toute l'opposition du monde. Le Seigneur a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis c'est ça qui s'en vient, là. On s'en vient d'autre. C'est notre espérance. Le mal ne continuera pas indéfiniment. Un jour, c'est le bien qui va surpasser, c'est le bien qui va surmonter le mal en le détruisant dans le jugement. C'est le Seigneur qui va le faire. Ça, c'est la condamnation du mal. Paul en avait parlé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. C'est notre espérance. Même si on ne veut pas que, comme le Seigneur, il ne voulant pas qu'aucun périsse, mais ceux qui vont refuser, continuer de refuser, ils vont se retrouver dans la perdition. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 5 à 10, il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est pour ça qu'on souffre, on souffre pour le royaume de Dieu. Il dit, car il est de la justice de Dieu. C'est pour ça que le jugement de Dieu est parfaitement juste. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, il y avait quelqu'un qui était sur un bateau, puis il s'est mis à prêcher, il prêchait l'évangile, puis là, il y en avait qui n'aimaient pas tellement ça, fait qu'il y avait un homme qui était parti, puis s'est en allé, il était en avant du bateau, l'homme s'est en allé à l'arrière du bateau, parce qu'il ne voulait pas entendre l'évangile. Puis après, quand ils ont fini de prêcher l'évangile, ils ont commencé à distribuer des traités sur le bateau, puis ils sont arrivés à l'homme pour lui donner un traité. Il dit, écoutez, y a-t-il une place où on n'entendra pas parler de ce Jésus-là? Et il dit, oui, il y a une place comme ça s'appelle l'étang de feu, où on ne parlera plus du Seigneur Jésus. Ceux qui ne veulent pas l'avoir vont finir dans l'étang de feu, séparés de lui pour l'éternité. Là, c'est là, ça, c'est le summum de l'effort de Satan qui va rencontrer, qui va s'écrouler sous la puissance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Puis ça, c'est la statue de Daniel qui est écrasée, qui est défaite par la pierre qui vient détruire ce mystère de l'iniquité-là. Puis ceux qui ont suivi l'Antéchrist, ceux qui ont rejeté la vérité, ils vont avoir la même destinée que l'homme de péché, Satan, l'homme politique, la bête religieuse. Ils vont terminer dans l'étang de feu pour l'éternité. C'est ça qui était le mystère de l'iniquité. Puis, dans la parole, on pourrait sûrement ajouter d'autres choses, mais c'est ce qu'on regardait ensemble pour le mystère de l'iniquité. Fait que je vous donne maintenant la possibilité de pouvoir donner des commentaires ou des questions. J'espère avoir répondu à vos questions, ceux qui ont demandé la question la semaine passée.
Oui, moi, Gérald, j'aurais une question. Ben, c'est une question, oui. Moi, quand je suis venu à l'Évangile la première fois et que je lisais la parole de Dieu, je donne un verset comme exemple. Quand c'était Ève, l'Éternel, il dit à Ève, « Pourquoi as-tu fait cela? » Elle dit, « J'ai le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et quand j'ai lu, j'ai été séduite, c'est comme si on est excusable. C'est pas de ma faute, j'ai été séduite. Mais en réalité, j'aimerais, si tu voudrais, Gérald, soit donner des synonymes ou une définition du mot séduction. Parce qu'en réalité, c'est le péché, c'est le manque de foi. Mais comment on pourrait définir mieux, mettons, la séduction, qui laisse pas entrevoir qu'on est excusable?
Ben, c'est parce que la séduction, c'est vraiment une tromperie. C'est de présenter quelque chose qui n'est pas vrai. Puis d'amener les gens à croire un mensonge. Parce que c'est quoi la séduction? Quand on dit qu'elle a été séduite, c'est que le serpent a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Fait que là, il a mis en doute la parole de Dieu. Fait qu'elle, ça l'a amené. Vous savez, quand on met le doute dans la pensée de quelqu'un, là, si on met le doute dans la pensée de quelqu'un, là, on peut venir tout bouleversé par un doute de même. Mais elle, quand elle a dit, Dieu a-t-il vraiment dit au début, est-ce que Dieu avait vraiment dit ça? Ben là, ben peut-être, c'est peut-être pas ça que ça veut dire. Mais Dieu avait dit qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf un qui était au milieu du jardin. Puis après ça, il a dit vraiment, elle a dit, Dieu a dit que si on mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on mourrait certainement. Puis là, il a nié la parole de Dieu. Après, tu as mis un doute. Là, après, il a nié la parole de Dieu. Il a dit, vous mourrez pas certainement. Ça, c'était un mensonge. Puis elle a tombé, elle a désobéi. Puis l'homme, ben lui, il a désobéi aussi. L'homme a désobéi. Elle a été séduite, mais l'homme a péché, lui, en prenant aussi, en donnant à son mari, puis il en a mangé. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, dans le fond, on peut dire que la séduction, c'est une tromperie pour nuire et non pour vraiment. Et
Ben, c'est ça.
ça l'excuse pas la personne séduite.
Non, parce que Dieu avait dit, c'est quand il a mis le doute de la parole de Dieu, puis quand il a nié la parole de Dieu, il aurait dû dire non. Dieu a dit. Ouais, c'est clair. Puis souvent, on peut être comme ça dans notre vie chrétienne. Tu sais, quelqu'un nous fait douter de ce que Dieu a dit. Puis on dit, ben, souvent on dit ça aujourd'hui, ouais, mais ça, c'est pas tellement grave, c'est pas important, c'est pas quelque chose de. C'est des séductions, ça. Si Dieu l'a dit, c'est important. Si c'est dans la parole de Dieu, c'est important. Qui on est pour juger de ce qui est important et qui n'est pas important dans la parole de Dieu? Ça.
Merci, Gérald. Exact.
Ça me fait penser, Steve, lorsqu'on lit dans Jacques que la Ève a été attirée et tentée par sa propre convoitise. Okay? C'est sa propre convoitise qui l'a tentée. C'est pas, elle ne peut pas mettre le blâme sur le diable, j'imagine. Hein?
Elle a vu que le fruit était beau, puis qu'il était agréable à la vue, puis et puis utile pour ouvrir l'intelligence. C'était vraiment la séduction, comme tu dis, David. C'était la séduction de Dieu a dit non, mais là, je peux le faire. Je peux en profiter. Peux en jouir.
Par rapport à celui qui le retient, le Saint-Esprit, au verset 7, on sait que le Saint-Esprit est venu sur la terre d'une façon permanente. On peut dire pour remplacer le Seigneur Jésus. Mais dans la tribulation, il va avoir quand même des conversions. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que ce serait juste de dire que le Saint-Esprit va travailler un peu comme il travaillait dans l'Ancien Testament? Soit en étant là d'une façon non permanente, mais
Oui, c'est ça, c'est ouais, le fait d'être habité par l'Esprit éternellement, comme David dans l'Ancien Testament, il dit, ne me retire pas ton esprit. Mais l'Esprit venait même sur des gens dans l'Ancien Testament, même sur des non-sauvés. Il venait pour une tâche. Mais vraiment, le fait que l'Esprit habite éternellement avec nous, c'est un privilège du temps de l'Église pour les croyants qui sont habités par l'esprit, puis qui ne peuvent pas, l'esprit s'en va pas. On peut l'attrister, on peut même l'éteindre. C'est-à-dire qu'il devient inactif dans notre vie, il ne devient plus apparent dans notre vie, mais il est avec nous autres. L'esprit ne peut pas nous être enlevé. Mais c'est ça, ouais. Parce qu'on vient, on voit que quand l'Église est enlevée, on vient avec les choses de l'Ancien Testament, on vient avec le peuple juif qui est le peuple témoin. Puis qui vont agir sur la terre. Puis l'Église, c'est une parenthèse dans le temps.
Cette semaine, j'étudiais dans Genèse chapitre 3, justement, dont Steve a parlé tout à l'heure, où on a le jugement de Satan qui est prophétisé d'avance, hein, quand il dit
Et la postérité de la femme,
la postérité de la femme, voici quel verset, donc.
ouais, qui dit qu'il lui écraserait, lui blessera le talon, mais la postérité de la femme lui écraserait la tête. Parce qu'en fait, la blessure.
Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, t'écrasera la tête, ça c'est le jugement de Satan. Ça nous parle de la deuxième venue du Seigneur aussi. On a la première venue puis la deuxième venue qui sont ici. Et tu lui blesseras le talon, tu lui blesseras le talon, ça nous parle de Seigneur Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix. Tandis que tu écraseras la tête du serpent, ben, à ce moment-là, la tête, ça nous parle, toute sa puissance va être enlevée. Donc, on sait que Satan agit aujourd'hui. Satan va être lié pendant le millénium. Il va être délié à la fin du millénium. Et après ça, ben, ça va être les temps de feu.
Bon, c'est ça, c'est comme sa défaite est progressive. Il a été défait à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus a eu la puissance sur la mort. Il a défait la mort, mais c'est un peu comme David avec Goliath. David a frappé Goliath, puis Goliath est mort, mais il avait quatre frères. Puis David avait pris cinq pierres. Puis c'était comme le Seigneur Jésus à la croix, il a accompli une grande victoire qui va être complètement accomplie quand Satan finalement va être jeté dans les temps de feu. Donc, on est arrivé à, je pense, on est arrivé à la fin. Oui, on est même dépassé un petit peu. Ça fait que on va peut-être avoir un mot de prière. Fait que ceux qui doivent partir pourront partir. S'il y en a qui veulent continuer de jaser, on pourra continuer. Ça fait qu'on va terminer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie que ce mal qu'on vit autour de nous, Seigneur, même qu'on voit dans nous-mêmes, on a ce mal en nous aussi, Seigneur. Mais on te remercie que tu nous as sauvés de nos péchés. Puis on te prie, Seigneur, que tu nous donnes la victoire constamment sur le mal, afin qu'on puisse t'obéir, être des témoins pour toi sur la terre, la puissance de ton évangile. Et on te remercie, Seigneur, que c'est pour un temps. Puis c'est de la justice de Dieu de rendre à ceux qui nous affligent, de rendre l'affliction, puis nous, de nous délivrer, Seigneur, de nous faire entrer dans ta gloire pour l'éternité. On te remercie pour ton salut merveilleux. Merci pour ces choses que tu nous dis dans ta parole, que tu vas avoir la victoire complète, finale, sur le mal. Et on te remercie pour ça, Seigneur. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.